Bien, nous commençons, Déborah, en considérant que le fait simplement de commencer de fermer la porte va faire venir deux ou trois personnes supplémentaires. C'est inévitable. Donc, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour recevoir Dominique Schnapper. Je n'avais pas pu être là la dernière séance, le 7 du 3 avril, parce que j'étais à ce moment-là donc, en voyage d'études au Rwanda. Donc là, c'était vraiment un cas de force majeure. Voilà, je reprends pour cette dernière séance avant l'été, puisque nous reprendrons notre travaux sur expérience des transformations politiques. Nous reprendrons en septembre pour les trois séances, en septembre, novembre et décembre. Et aujourd'hui, c'est la séance de printemps avant cette interruption qui nous ramènera ensuite en septembre. Donc, je suis très heureux de recevoir, si je puis dire, Dominique Schnapper, qui donc certainement bien connu de vous, grande sociologue, grande politiste, qui a siégé presque 10 ans au Conseil constitutionnel, qui en a fait d'ailleurs une analyse sociologique. Donc elle va, sa séance va, je crois, répondre assez bien à une séance que nous avions eue le 6 mars autour de Pierre Manant, une séance assez pessimiste d'ailleurs. Sur le champ politique français en particulier. Dominique Schnapper aujourd'hui va parler des démocraties risques de dérive, c'est son sujet, et elle va tirer une partie de son propos, pendant une cinquantaine de minutes, de son dernier ouvrage, L'esprit démocratique des lois, qui est paru chez Gallimard en 2014. C'est cet ouvrage qu'on ne saurait trop vous recommander. Et je lui laisse donc tout de suite la parole. Voilà, Dominique. Merci encore d'être avec nous et on vous écoute avec vraiment beaucoup de plaisir.
Merci. Alors, je voudrais commencer en partant d'une phrase signée de mon père qui est la formule « Les démocraties se corrompent soit par l'exagération, soit par la négation de leurs principes ». Ce qui, dans le langage sociologique courant, voudrait dire, en d'autres termes, soit par leurs manquements, soit par leurs excès. Alors, la littérature sociologique et l'ère du temps ont tendance à insister sur les manquements, parce que ces manquements sont évidents. Je dois dire que j'ai aussi contribué dans des travaux précédents à cette littérature critique. Et ce n'est pas l'objet du propos que je vais vous tenir, que je vais vous donner ce soir. Je voudrais tout de même simplement mentionner les manquements essentiels dans l'histoire des démocraties, même si je n'en traite pas ce soir. Alors, vous les connaissez parce qu'ils sont maintenant très souvent évoqués. D'une part, le passé colonial, le projet colonial, qui était directement contraire aux principes démocratiques, puisqu'ils sont fondés sur l'égalité des statuts civils, juridiques et politiques, et que la société coloniale était justement fondée sur des statuts inégaux. Donc c'est l'un des manquements qui est le plus évoqué de nos jours. Mais il ne faut pas oublier non plus les formes d'exclusion de l'autre à l'intérieur des sociétés, dont évidemment les grands exemples sont le sort des Afro-Américains longtemps, jusqu'à une date récente et peut-être même encore aujourd'hui, et l'antisémitisme qui a toujours régné dans les sociétés démocratiques. Et enfin, je ne sais pas s'il faut dire last but not least, mais en tout cas c'est souvent évoqué, l'exclusion des femmes de la vie publique, jusqu'à une date récente, la réticence avec laquelle elles y sont encore accueillies, et puis le thème éternel des inégalités sociales qui se maintiennent ou même se renouvellent. Alors par-delà, c'est les manquements si souvent évoqués. Il faut penser que plus généralement, la démocratie repose sur une utopie créatrice, une utopie puisqu'elle se réfère à l'idée de la liberté et l'égalité de tous les êtres humains et qu'elle invoque d'une certaine façon des principes qui sont impossibles à appliquer tels quels, de sorte que les critiques qu'on peut faire, l'analyse des manquements qu'on fait souvent, sont toujours justifiées lorsqu'on compare les réalités sociales les plus concrètes, telles qu'on peut les observer et les vivre, aux principes dont les démocraties se réclament. D'une certaine façon, on ne peut qu'être déçu par la démocratie. Mais je laisse ce thème, puisque ce n'est pas les manquements à ces principes que je vais analyser ici, mais les excès ou les exagérations et les risques que comportent ces excès et ces exagérations. Et d'ailleurs, les manquements d'une part, les exagérations d'autre part, ne sont pas en opposition, ils peuvent même s'influencer réciproquement ou même se renforcer, c'est-à-dire que les démocraties peuvent comporter à la fois des manquements à leurs propres principes et des risques de dérive liés aux exagérations de leurs principes, ce qui m'amène toujours à dire que les régimes démocratiques sont des régimes à la fois aussi improbables que fragiles. Alors pour étudier ces manquements, je suis partie du cadre analytique de Montesquieu, ce qui explique le titre peu modeste qui a été donné à mon livre. Je peux m'en excuser en disant que ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais que c'est l'éditeur. Mais enfin, j'ai assumé, parce que c'est un moment où on cesse d'être... Je suis peut-être à un âge où on cesse d'être modeste. Mais ce cadre analytique, donc, m'a conduite à utiliser son concept de corruption des régimes politiques. Et c'est les risques de corruption, dans ce sens de Montesquieu que vous connaissez, c'est-à-dire que ce n'est quand le principe même qui organise le régime est atteint. Et donc le propos du livre est d'insister sur les risques de cette corruption possible. Donc je ne propose pas une analyse de la société actuelle, de la société démocratique ou des sociétés démocratiques, même si évidemment, comme je suis sociologue, maintenant on dit politologue parce que je touche aux problèmes politiques, mais dans ma conception de la sociologie, la dimension politique fait partie du projet sociologique. Et donc, en tant que sociologue, j'utilise des données qui sont nées soit de l'observation immédiate des sociétés dans lesquelles nous vivons, soit, pour compléter, la connaissance que rassemblent les sciences sociales. Et donc, j'essaie de montrer comment les exagérations des principes démocratiques eux-mêmes, les excès des principes démocratiques eux-mêmes risquent de dévoyer la démocratie elle-même. Et évidemment, comprendre les dévoiements possibles, c'est aussi, je l'espère, se donner des armes intellectuelles, au moins intellectuelles, pour qu'ils ne surviennent pas. Et je dis tout de suite que les critiques que je peux faire reposent aussi sur l'idée fondamentale que nous n'avons pas d'autre idée que l'idée démocratique pour organiser une société que mon ami Alain Besançon appelle convenable et dont je trouvais l'adjectif bien choisi dans sa modestie. Donc je voudrais partir d'une proposition simple. Les sociétés démocratiques sont des sociétés dans lesquelles c'est la communauté des citoyens qui fonde la légitimité politique. Et la communauté des citoyens fonde sa légitimité sur l'autonomie, la liberté et l'égalité de tous les individus citoyens. Ces principes qui sont fondateurs, sur lesquels sont fondées nos sociétés, risquent d'être dévoyés si les hommes perdent ou perdaient, sans conditionnel, le sens des limites et des bornes de la vie collective et le sens des limites et des bornes de la condition humaine. Et il me semble, pour résumer en une phrase, que la grande tentation de ce que j'ai appelé l'homo democraticus, après d'autres d'ailleurs, c'est la tentation de l'illimité, c'est-à-dire la tentation de ne pas reconnaître ses limites et ses bornes. De sorte que si la démocratie venait à ne plus être contrôlée par la raison et par les institutions, elle remettrait en question les principes mêmes qui la fondent et qui la légitiment. Or, il existe aujourd'hui une triple dynamique qui pourrait conduire à la fin des limitations que les hommes doivent respecter pour constituer une démocratie réglée et non pas extrême. Et ces deux termes sont de nouveau empruntés à Montesquieu, qui oppose la démocratie réglée à la démocratie extrême. Et donc, pour que la démocratie reste réglée et non extrême, elle est soumise, disons, à cette triple dynamique, celle de la science, celle du capitalisme et celle de la démocratie. Alors la première dynamique, c'est celle de la science qui pose qu'aucune limite ne peut être apportée à l'effort de comprendre. L'homo democraticus entretient le projet de maîtriser la nature par la science et l'esprit critique qui est au fondement de l'esprit scientifique est fondé sur la conviction qu'il n'existe pas de borne intrinsèque au développement de la connaissance, que la nature n'oppose pas à l'esprit humain une contrainte qui soit susceptible de restreindre l'effort de comprendre. Et les savants s'appliquent à repousser toujours plus loin les frontières du connu, et ils contestent qu'il existerait des limites à leur projet et au pouvoir que ce projet leur confère. C'est donc la première dynamique qui risque de remettre en cause l'idée même de limites et de bornes. Nous sommes dans des sociétés scientifiques où la science imprègne nos vies et nous conduit à la respecter profondément. Et il y a dans la science cette aspiration qui est sans bornes. La deuxième dynamique est, j'irai très vite parce que c'est très évident, c'est celle du capitalisme qui, par nature, vise à produire toujours plus de biens et toujours plus de services et d'une manière qui peut devenir toujours plus efficace et plus rapide et qui, par elle-même, ne comporte non plus aucune limitation. Alors, la troisième dynamique, c'est la dynamique démocratique. Et c'est celle dont il sera question ce soir. Et je vais essayer d'analyser la manière dont, si elle devenait excessive, elle pourrait trahir les principes mêmes qui la fondent. Et il me semble qu'étant donné sa, par nature, étant donné sa vocation universelle, elle ne comporte en tant que telle pas de limites intrinsèques. Et donc, si elle n'était pas contrôlée, à la fois par la raison humaine et par les institutions que cette raison a établies, elle pourrait transformer les trois grands principes, c'est-à-dire l'autonomie en indépendance, la liberté en licence et l'égalité en distinction. Quand j'ai commencé à présenter à des étudiants ma réflexion au fur et à mesure qu'elle s'élaborait, Il a fallu que je leur explique que la licence n'était pas simplement un diplôme de l'université, ce qui m'a plongée dans le sentiment qu'il y avait vraiment une grande coupure avec les jeunes générations, parce qu'ils ne connaissaient pas le sens du passage de la liberté à la licence. C'était pourtant des étudiants devenus professeurs d'université, toutes les trois.
Ce qui montre que vous aviez raison. Si on sait même plus ce qu'est le mot,
c'est que n'est-ce pas, c'est pour ça que je vous le raconte, c'est parce que c'était frappant. Elles étaient toutes les trois maîtres de conférences dans trois grandes universités françaises, ce qui prouve qu'il y a une rupture entre la façon dont nous avons été formés et les générations plus jeunes. Donc je ne vous précise pas le sens de licence. Donc je vais reprendre ces trois termes et essayer de donner des exemples sur la possibilité, ou le risque plutôt, de dérive de ces trois termes. Donc l'autonomie. L'autonomie et le risque que l'autonomie se dérive sous forme d'indépendance. Et donc il ne faut pas céder à un contresens et négliger la sagesse héritée de la tradition philosophique, selon laquelle l'exercice de l'autonomie ne consiste pas à céder aux caprices de l'individu et aux caprices du moment. Le détachement, l'autonomie implique le détachement à l'égard des déterminations familiales, des déterminations communautaires, celles des proches, celles du village, c'est des communautés proches. Et évidemment, ce détachement est au cœur de l'idée de l'individu citoyen. Mais il n'a de sens que s'il se conjugue avec des attachements et des engagements qui sont librement choisis et respectés. Et par conséquent, l'idée de l'autonomie comme détachement doit être pensée dans son rapport avec le sens de la dépendance et de l'autonomie choisie. L'autonomie ne signifie pas le refus de toute dépendance et de toute contrainte. La liberté se déploie à l'intérieur des règles communes et grâce à l'existence de ces règles. Je ne fais là que rappeler une grande tradition philosophique, de la philosophie politique, de Locke à Kant et Rousseau, et même à Platon, si on voulait revenir plus loin. Et donc, il faut s'en tenir à la distinction qui est donc inscrite dans la tradition philosophique entre l'autonomie qui est le fondement de la légitimité de la communauté des citoyens et l'indépendance qui est l'individu détaché de toute dépendance et de tout attachement. Ou, autre façon de formuler la même idée, la distinction entre le sujet qui s'engage et l'individu qui se croit tout seul. L'indépendance, à savoir la capacité de l'individu de faire ce que lui dicte dans l'immédiat son caprice et ses intérêts du moment, ne se confond pas, ou plutôt se doit être rigoureusement distingué, de l'autonomie, c'est-à-dire de la volonté du sujet de maîtriser son action au nom de normes et de principes universels qui doivent être d'autant plus respectés qu'ils ont été librement élaborés, choisis et critiqués. Et ce qu'on peut appeler la promesse républicaine repose précisément sur cette distinction entre l'autonomie et l'indépendance. Et évidemment, le risque de dérive apparaît si l'autonomie se transformait en refus de toute dépendance, de tout attachement et de tout engagement. Alors on tomberait dans le règne de l'indépendance et dans ce que Montesquieu a appelé la démocratie extrême, celle qui ne pourrait plus apporter aux individus la protection qu'offrent les institutions, les routines et les évidences communes. Parce que c'est à travers et c'est grâce à ces institutions, ces routines et ces évidences communes que peut être nourrie la confiance qui réciproque, qui unissent les membres d'une société et qui sont nécessaires pour tisser ce que Marcel Mauss appelait ces nombreux liens invisibles qui créent le social quotidien et qui permettent de répondre aux attentes des individus dans la vie collective. Et c'est bien le contrôle par les institutions et que les institutions exercent sur les individus qui permet que la République soit réglée et non pas extrême, qu'elle demeure fondée sur l'autonomie des individus et qu'elle ne soit pas remise en cause par l'attachement premier des individus à leur propre indépendance. Parce que là aussi, c'est un fruit de la réflexion philosophique. Sans reconnaissance institutionnelle des droits d'autrui, il n'est point de liberté. Et donc le deuxième principe, la liberté deviendrait en effet licence, dans un sens non académique, si elle ne s'exprimait plus à travers le respect des institutions qui l'organisent. Ce qui me frappe, et parce que j'ai des convictions universalistes très, très profondes, c'est que tous les peuples ont une aspiration à la liberté politique. Je le pense des descendants soviétiques et chinois aux peuples des printemps arabes. Mais ils ont besoin de beaucoup de temps pour apprendre à élaborer et à respecter les institutions qui rendent cette aspiration effective et stable. L'acte révolutionnaire d'aspiration à la liberté est sans doute assez facile. Il est certainement plus romantique que le respect quotidien et modeste des pratiques de l'état de droit, et cela en particulier dans nos sociétés, parce que les pratiques de l'état de droit apparaissent comme formelles, longues, et ne répondant pas dans l'immédiat aux exigences, aux aspirations des individus. Or, il faut beaucoup de temps pour créer et pour apprendre à respecter les institutions qui organisent la liberté politique, j'entends. Et l'exemple de l'histoire française l'illustre bien, puisqu'il a fallu plus d'un siècle entre l'explosion révolutionnaire d'aspiration à la liberté et le moment où les institutions de la liberté ont été à peu près stabilisées et donc à peu près effectives. Elles ne peuvent jamais être tout à fait stabilisées ni tout à fait effectives. Et par conséquent, on peut penser qu'elles sont arrivées au moment d'être convenables, pour reprendre l'adjectif d'Alain Besançon. Or, la démocratie repose bien sur ce respect des institutions parce qu'elles seules permettent qu'elles soient effectives. Être démocrate, c'est créer et respecter les institutions démocratiques. Or, aujourd'hui, sous l'effet des moyens de communication nouveaux qui nous contraignent, qu'on le veuille ou non, qui nous contraignent un peu à vivre dans l'immédiat et à nous respecter une temporalité extrêmement rapide, on peut craindre que les citoyens deviennent de plus en plus susceptibles de critiquer la temporalité longue et la formalité inévitable des institutions qui organisent la société démocratique. En sorte qu'existe le risque que les démocrates, qui par définition sont critiques, puisque par définition les citoyens sont critiques, risquent d'en venir à contester non seulement la manière dont les institutions fonctionnent. Et là encore, ils ont toujours de bonnes raisons de critiquer la manière dont elles fonctionnent, parce qu'elles ne fonctionnent jamais tout à fait bien. Mais par-delà même les institutions, le fait même de l'institution. Et autant la critique du contenu, des pratiques des institutions de la démocratie est à la fois souhaitable, puisqu'elle manifeste la liberté du citoyen, autant le fait de critiquer le fait même de l'institution risque de dériver. Je suis toujours frappée par le fait que les maires de l'opposition s'interrogent sur le fait qu'il faille ou ne faille pas accueillir le président de la République quand il est d'une autre majorité que la leur, et qu'ils aient oublié cette distinction essentielle, que quel que soit ce que nous pensons du président de la République, et nous pouvons toujours en penser beaucoup de mal avec toujours d'excellentes raisons. Vous n'enregistrez pas ça. Il faut respecter le fait qu'il est président de la République, légitimement élu, selon des règles légitimes, et que donc le problème ne se pose pas, parce qu'on respecte l'institution et on ne critique pas la personne. Et là, on touche ce qui pourrait devenir un risque de dérive, c'est-à-dire le moment où la critique normale et légitime des pratiques et des hommes en charge des institutions qui fondent l'ordre démocratique aboutissait à remettre en cause le fait même de l'institution qui, en organisant la démocratie, lui donne son sens, et parce qu'aucune aucune liberté n'existe si elle n'est pas garantie par le droit. Et donc, les aspirations des individus démocratiques, la temporalité imposée par les nouveaux moyens de communication risquent de faire dériver la critique aussi souhaitable que naturelle du citoyen vis-à-vis des pratiques démocratiques vers la remise en cause de l'idée même d'institution, ce qui là serait une dérive normale, une dérive excessive risquant de déboucher sur la démocratie extrême. Alors, dans toute société, les normes ne sont pas transmises telles quelles au cours du temps. Elles sont normalement réinterprétées et adaptées par les générations successives. Mais le risque que je vois n'est pas dans cette réinterprétation naturelle qui est un produit de la vie sociale, mais dans l'irruption possible d'un rapport qui soit à la fois nouveau et critique, non seulement au contenu de ces normes et au comportement des responsables des institutions, mais à l'idée même de normes dans une société qui se veut, qui est individualiste et qui risque donc de déboucher sur les excès de l'individualisme. Or, la démocratie est réflexive en ce sens que ses membres n'admettent aucune norme sans l'avoir soumise à leur réflexion critique. Mais à partir de cette critique légitime, signe et condition de la liberté politique, il existe un risque qu'elle devienne excessive. Et donc, il importe que l'on critique cette critique. Il faut critiquer la critique démocratique, c'est-à-dire la relativiser, la réfléchir et voir ses propres limites, et en même temps qu'on l'exerce, la conjuguer avec le respect des institutions qui sont légitimes dans la mesure où elles s'exercent en respectant les règles de droit légitimes de l'ordre politique. Or, la possibilité des excès existe parce qu'elle est liée aux privilèges que s'accordent des individus démocratiques à remettre en cause toutes les normes héritées et à construire une société qui ne soit en rien naturelle, mais qui soit entièrement créée par l'homme. Or, en soumettant à leur critique les normes et les institutions qui assurent une forme de permanence de l'ordre social par-delà le renouvellement des générations et des expériences, la démocratie pourrait alors cesser d'être réglée pour devenir extrême. Et dans ce cas, on peut se demander si elle pourrait maintenir le minimum de stabilité dans le temps que requiert l'organisation de la vie en commun, par-delà les émotions du moment et par-delà le renouvellement des générations. Et toute société doit assurer un minimum de transmission des valeurs communes qui lui donnent sa spécificité et sa signification. Alors, je vous ai indiqué rapidement comment je vois les risques de dérive des deux grands principes de l'autonomie et de la liberté. J'en viens donc à l'égalité, car l'idée d'égalité, de son côté, risque aussi de se corrompre, toujours dans le sens classique, et de sombrer dans la recherche non seulement de l'égalité, avec d'ailleurs toutes les ambiguïtés que depuis Aristote on connaît dans l'idée même d'égalité, mais aussi dans la recherche de l'identité de tous. Pour parodier Madame Royal, on peut penser que la société d'égalité est tentée par l'idée de semblablitude. Il s'agirait pas seulement d'être égaux, mais d'être semblable. L'autre ne serait pas seulement égal en dignité, il ne devrait pas seulement être civilement, juridiquement et politiquement égal aux autres, il devrait être semblable ou identique. Et là, on touche à un risque de dérive de l'idée d'égalité. Car dans ce cas, si les démocrates devaient être tentés par l'idée du semblable ou de l'identique, toute distinction et même toute catégorisation tendrait alors à être jugée comme discriminatoire. Toute différence tendrait à être jugée comme une inégalité. Et toute inégalité tendrait à être jugée inéquitable. Et si on cédait à cette tentation, on verrait naître la dérive vers l'indistinction ou la confusion. Je préfère parler d'indistinction, mais confusion désigne le même phénomène, qui est la corruption de l'égalité. Et la société des égaux en tant que sujet de droit, disposant de droits égaux, pourrait alors dériver vers la tentation de créer la société des semblables. Or, si tous les citoyens sont égaux en dignité, s'ils disposent des mêmes droits civils, juridiques et politiques, ils ne sont pas pour autant semblables. Or, la fascination de la semblabilité au nom de l'égalité est une dérive possible qui menace les démocraties. Alors, depuis les ouvrages de Veblen, La classe de loisirs qui a été écrite en 1899, ceux d'Edmond Gobelot au cours des années 20, les sociologues ont, à juste titre, insisté sur l'effort des individus pour se distinguer des autres et affirmer aux dépens des autres la supériorité de leur propre statut social. Comme vous savez, Pierre Bourdieu a fait de la distinction le principe même de la vie collective et à analyser le principe dynamique de la société comme étant le souci premier de marquer la différence d'avec le vulgaire. Alors, en analysant cette volonté de distinction, il dénonce justement, plus ou moins explicitement, une société qui, dans les faits concrets, reste effectivement inégale dans les relations et dans les pratiques, malgré la proclamation de l'égalité politique de ses membres. Mais si la recherche de la distinction est un phénomène sociologique si important, c'est précisément parce que tous les individus sont formellement égaux. Dans le monde des statuts différents qui a précédé le monde démocratique, il n'y avait pas lieu de rechercher la distinction, puisque la position de chacun était fixée une fois pour toutes par sa naissance. Or, le monde de l'égalité démocratique dans lequel nous vivons est le monde de l'égalité des statuts juridiques et de l'aspiration à l'égalité réelle, c'est-à-dire à l'égalité sociale, pour reprendre une distinction classique de la critique marxiste qui, comme vous savez, oppose l'égalité formelle, qui est l'égalité des droits, à l'inégalité réelle, qui est l'inégalité des conditions économiques et sociales. Et le monde démocratique, depuis la Seconde Guerre mondiale, s'efforce de conjuguer cette égalité formelle, dont on a vu tout le poids par l'expérience historique du XXe siècle, avec un effort pour réaliser une égalité réelle aussi grande que possible. Et c'est bien à l'intérieur de ce monde de l'égalité que se manifeste et que prend sens ce que les sociologues ont observé, c'est-à-dire l'effort pour démontrer sa supériorité sociale. Or, cette passion de l'égalité dont Tocqueville nous a laissé une analyse éclatante il y a quasiment deux siècles, risque de remettre en cause par le fait qu'elle refuse les catégorisations, qu'elle considère que toute forme de catégorisation est déjà une forme d'inégalité ou de reconnaissance de l'inégalité. Elle risque de remettre en cause la séparation des ordres, la séparation des personnes et la séparation des valeurs, qui sont au principe de la démocratie. Je vais reprendre ces trois termes pour désigner les risques de dérive. S'agissant des ordres, la démocratie repose sur un principe de séparation, en mettant un S à séparation, puisqu'il y a à la fois la séparation de la vie privée et de la vie publique, la séparation de l'État et de la société civile, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, du pouvoir médiatique et du pouvoir politique, du pouvoir judiciaire et du pouvoir politique, et du politique et du religieux, ce dernier principe étant essentiel, puisque c'est sur la séparation du politique et du religieux que se fonde l'organisation politique. Alors, au nom de l'égalité, on risque de dériver vers la confusion des ordres. Et voilà, nous en avons quelques exemples. Les hommes politiques viennent dans les médias. Monsieur Berlusconi est propriétaire de la majorité du pouvoir médiatique en Italie. La vie privée des hommes politiques fait partie des débats de la vie publique. L'État et la société civile se mélangent. Quant au problème du religieux, du rapport du politique et du religieux, la forme de la laïcité française n'est qu'une forme particulière et spécifique du problème plus général de toutes les démocraties, qui est un principe de séparation du politique et du religieux. Et la forme française n'est évidemment pas la seule forme de séparation des politiques et des religieux, contrairement à ce que les Français ont tendance à penser. Mais de plus en plus, la frontière qui, même en France, qui apparaissait comme claire entre ce qui était de l'ordre du religieux dans l'espace privé et de l'ordre du public dans l'espace public, cette frontière est débattue, est mal reconnue, est disputée et devient l'effet de et devient une occasion, disons, de débat, parce que la séparation du public et du privé, cette frontière qui, dans son principe, permettait de régler beaucoup des conflits de la vie collective, n'est plus clairement pensée ni définie. C'est pourquoi on parle à juste titre d'une juridicisation du politique, c'est-à-dire que l'impression que les magistrats interviennent de plus en plus dans la vie du politique, et de politisation du judiciaire, c'est-à-dire l'intervention de l'État dans l'ordre judiciaire. Ne parlons pas de la pipolisation des hommes politiques et de leurs familles, ou même des formes d'art contemporain qui contestent la définition même de l'art en dépassant toutes les limites esthétique ou morale héritée de la tradition. Donc on voit des éléments qui permettent de comprendre ou de formuler les dérives qui au nom de l'égalité, risquent d'intervenir. Alors du risque de la confusion des personnes, je dis qu'il y a confusion des ordres, confusion des personnes, du risque de la confusion des personnes, il me semble que nous observons les premiers éléments de dérive de la revendication légitime de l'égalité des hommes et des femmes jusqu'au moment où, institutionnellement, on n'admet plus, disons, la différence des hommes et des femmes. Et de ce point de vue-là, le risque de passage de l'égalité des uns et des autres à l'indistinction des uns et des autres existe, et le mariage homosexuel qui est en voie d'être adopté par toutes les démocraties et qui a été revendiqué et institué au nom de l'égalité peut être considéré comme une illustration, puisque le mariage peut désormais unir deux personnes indépendamment de leur sexe. Alors, vous vous souvenez qu'on disait volontiers que le Parlement anglais pouvait tout faire sauf changer un homme en femme, à moins que ce soit une femme en homme. Parce que, justement, cette distinction paraissait la limite naturelle qui était opposée à tout projet de construire une société à partir de la raison, mais il y avait là une limite biologique qu'on ne pouvait pas dépasser. Or, dans la société démocratique qui se veut et qui est, d'une certaine façon, auto-constituée, qui ne fonde sa légitimité ni sur un dieu, ni sur la tradition, le rapport entre les sexes et les générations paraissait être la limite, une limite biologique qui s'opposait à la création d'une société entièrement humaine et entièrement rationnelle. Et c'est cette limite même entre les sexes et les générations qui est désormais conçue comme le fruit d'un choix libre. On choisit, il est maintenant beaucoup plus facile de choisir son sexe, de changer de sexe. Et donc cette limite même est contestée, révélant cette tendance de la société démocratique à contester toute espèce de limite. Un sociologue américain très, très respectable et donc respecté a expliqué aussi que désormais le groupe ethnique pouvait être le produit d'un choix, c'est-à-dire que quand vous aviez une couleur de peau qui semblait indiquer que vous aviez des ancêtres afro-américains, vous pouviez décider d'appartenir au groupe ethnique irlandais parce que vous aviez dans votre hérédité naturellement un de vos aïeux qui était irlandais. Il m'a paru légèrement abstrait puisque on peut décider d'être irlandais quand on a eu des ancêtres afro-américains, mais j'ai peur que les autres ne vous reconnaissent pas, mais ça c'est un comme tel. Mais ça c'est un argument très bassement de bon sens qu'il ne faut pas prendre. Donc ni le sexe, ni la génération, ni l'origine ethnique ne sont plus totalement considérés comme naturels dans une société qui, selon la formule de l'anthropologue Louis Dumont, se veut rationnelle, entendant qu'elle se détache de la nature pour instaurer un ordre humain autonome. La société démocratique veut instaurer un ordre humain autonome et les limites qui apparaissaient comme biologiques, donc comme étant des limites impossibles à dépasser, elles-mêmes sont contestées. Et j'ai quelques pages même sur le rapport à la mort et l'espèce de refus de beaucoup de savants de considérer que la mort soit un phénomène naturel. Il y a un certain nombre d'exemples. Quant à la confusion des valeurs, elle risque d'aboutir au relativisme absolu, à distinguer du relativisme que mon ami Céline Mabou appelle relatif, c'est-à-dire le relativisme qui, depuis Montaigne, dit que toutes les sociétés ont des valeurs différentes et qu'il faut comprendre le sens différent des valeurs dans les différentes sociétés, point sur lequel nous sommes tous d'accord. Mais le relativisme absolu, c'est ceux qui, portant cette idée profonde et définitive de la relativité des sociétés, on arrive à conclure que les sociétés ne peuvent pas se comprendre les unes les autres, que les individus ne peuvent pas se comprendre les uns les autres d'une société à l'autre, qu'on ne peut porter aucun espèce de jugement sur tel ou tel trait des sociétés, parce que le relativisme absolu empêche de porter un jugement d'une société à l'autre. Et si on cédait, il y a eu ce débat au moment où on a débattu de l'excision des petites filles de l'Afrique subsaharienne, où nos collègues anthropologues se sont divisés entre ceux du relativisme absolu qui disaient c'est leur mœurs et il faut les respecter, et ceux du relativisme relatif qui disaient c'est peut-être leur mœurs, je comprends le sens que ça a dans leur société, mais il y a un jugement à porter sur des traits culturels qui renvoient l'être humain à sa pure biologie. La Maison des sciences de l'homme s'est divisée avec, à ma grande joie et surprise, une majorité qui était contre le relativisme culturel absolu. Mais vous voyez le problème que pose et la tentation de ce relativisme culturel absolu qui risquerait, si on y cédait, d'aboutir à l'idée qu'il n'y a ni du vrai, ni du beau, ni du juste, puisqu'on est dans la relativité complète, absolue, des valeurs. Et évidemment, c'est nourri par l'idée qu'en tant que citoyens, nous avons tous le droit de donner notre avis, d'avoir une opinion, et que déjà, Tocqueville avait dit, dans la démocratie, tout est opinion. ce qui, si on va loin dans cette idée, aboutirait à ne pas reconnaître la validité de l'expérience et la validité de l'effort de connaissance rationnelle. Et vous savez que nos collègues scientifiques se plaignent beaucoup de l'irrationalité dont ils observent le développement. Tout ça au nom de l'égalité fondamentale de tous, c'est-à-dire que la vie de chacun vaut la vie de tous les autres, y compris de ceux qui sont compétents. Et donc, par un effet... Alors, voilà comment ces trois principes risquent de dériver. Et je voudrais ajouter que s'agissant de la passion de l'égalité, par un effet que les sociologues appellent pervers, c'est-à-dire à la fois involontaire et parfois tragique, et en tout cas regrettable, la passion de l'égalité qui anime nos sociétés risque, d'une manière paradoxale mais qu'on comprend, de créer une société de l'humiliation. Ulrich Becht parle d'une société du risque, Zygmunt Bauman d'une société liquide. Il me semble que ce qui caractérise notre société, c'est que c'est une société post-traditionnelle qui se veut totalement créée par elle-même. Et parce qu'elle se veut totalement créée par elle-même, au nom de l'égalité, elle risque de nourrir les humiliations. En effet, les seules distinctions qui sont légitimes dans nos sociétés, c'est les distinctions qui sont le résultat de la compétition de tous contre tous. C'est uniquement au nom du mérite, dans une compétition où tous peuvent être en compétition, elle crée inévitablement des échecs et des humiliations. Dans les sociétés qui sont fondées sur un principe d'inégalité, les inégalités ne sont pas vécues comme des échecs, puisqu'elles sont données une fois pour toutes, elles tiennent à la naissance et elles organisent l'ordre social. Dans des sociétés qui sont fondées sur l'idée d'égalité, les inégalités vécues ne sont plus justifiées par l'évidence de l'ordre social, elles ne peuvent être considérées et vécues que comme le résultat des capacités inégales des personnes à participer à cette compétition généralisée. Et par définition, elle crée plus d'humiliation que de succès, et ça, quel que soit le niveau. Même les présidents de la République ne peuvent pas se faire réélire une deuxième fois. Ils ont donc à apprendre à gérer les échecs de la compétition de tous contre tous, même si ce n'est pas les mêmes échecs que ceux des jeunes des banlieues dans les collèges. Mais le principe même de la société nourrit ces compétitions généralisées et donc les échecs qui sont liés à ces compétitions. Alors je conclue cette analyse par définition rapide puisqu'elle est développée en plus de pages. Cette analyse des risques ne doit pas pour autant nous faire oublier le fait fondamental que la génération à laquelle j'appartiens, pour laquelle la guerre n'est pas une abstraction, mais intégrée dans l'expérience, que les sociétés démocratiques actuelles, européennes, américaines, sont les plus libres, les plus tolérantes, les plus riches et les moins inégales qu'on ait connues. Et donc, toutes les critiques sur les manquements, la réflexion sur les risques de dérive, doivent être critiquées elles-mêmes et mettre en garde contre les dévoiements possibles, sans oublier les réalisations et les acquis de la promesse républicaine. Et c'est même parce que nous devons en avoir une pleine conscience que nous devons aussi, clairement, voir les risques de corruption, parce qu'il faut éviter que les démocraties cèdent à leurs propres démons. Donc il ne s'agit pas de revenir en arrière et de nourrir une nostalgie sur le temps passé. D'abord parce que si nous avions vécu dans les temps passés, je pense que beaucoup de choses ne nous auraient pas plu. Et parce que de toute façon, la nostalgie est inutile, parce que les sociétés ne reviennent pas en arrière, donc on ne peut être que dans le caractère réactionnaire, et celui-là est peu utile. Mais il faut essayer de penser comment on peut transmettre l'essentiel d'une culture commune tout en tenant compte de l'évolution de la société démocratique et en gardant à l'esprit ces acquis qui me paraissent incontestables. Alors, par définition, les dévoiements ne sont pas inscrits dans l'histoire, l'histoire n'est pas faite, et l'inquiétude qu'on peut nourrir sur la capacité des démocraties de contrôler les dérives possibles ne doivent pas faire oublier leurs qualités. Elles sont relatives, bien sûr, comme tout ce qui est humain, mais elles sont essentielles, et il ne faut pas oublier que c'est tout de même vers les démocraties que votent en marchant les plus entreprenants des autres peuples, jusqu'à risquer leur vie. Et donc, nous ne disposons pas d'autres idées pour organiser humainement les sociétés humaines. Il faut donc critiquer notre critique, souligner encore une fois qu'il s'agit de comprendre les risques de dévoiement pour qu'avec la volonté de tous les démocrates, les démocraties sachent y résister. Le destin humain n'est pas écrit d'avance. C'est à nous de savoir agir pour que la démocratie résiste à ses propres tentations, celles que nourrit l'exagération de ses principes. Et il faut aussi ne pas oublier que trop de démocratie pourrait tuer la démocratie. Voilà, je vous remercie de votre attention.